Dimanche prochain, premier tour des élections régionales en Midi-Pyrénées plus Languedoc-Roussillon, la future grande région. Pas moins de 11 listes se sont portées candidates. CFM Corde consacre une série d'émissions aux enjeux de cette régionalisation, non pas en donnant la parole aux candidats, mais plutôt en tendant le micro à des spécialistes sur le sujet. Depuis hier, nous sommes en compagnie de François Tolel, professeur à l'Université Champollion d'Albi, pour discuter des enjeux de cette régionalisation.
CFM, le MAG, tous les jours,
12h, 12h30,
la vie du pays cordais.
Bonjour François Tolel.
Bonjour.
Professeur de géographie, aménagement du territoire et urbanisme à l'Université d'Albi. Avec vous, nous essayons de décrypter les enjeux de la loi NOTRe, acronyme pour désigner la nouvelle organisation territoriale de la République. En résumé, celle par qui les 12 futures grandes régions de la France vont voir le jour et celle pour lesquelles on vote le 6 et 13 décembre prochain. Dans une précédente émission, disponible en podcast sur cfmradio.fr, nous avons vu les fondements de ce redécoupage territorial. Aujourd'hui, intéressons-nous au fonctionnement des différentes collectivités qui vont se retrouver impactées par cette loi NOTRe. Tout d'abord, les futures régions, dans le détail, de quoi elles devront s'occuper?
Bon, les régions, elles ont beaucoup de compétences, mais il faut dire qu'elles viennent de loin, les régions, hein, puisque on n'a pas parlé la dernière fois de cette émergence des régions. Mais en fait, autant le département arrive de la Révolution française avec la volonté géométrique d'avoir une sorte d'égalité territoriale avec un quadrillage de tout le territoire, avoir des entités homogènes. Il y a eu des grands débats à l'Assemblée nationale à l'époque, à l'Assemblée, en fait, à l'issue de la Révolution française, entre Seyès, par exemple, et Touré, sur le fameux découpage, géométrique ou pas. Autant sur les régions, il n'y avait pas de réforme, puisque ces régions, pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, elles ont été, il y a eu une sorte de tâches, en fait, sur le fait régional, puisque Pétain s'était appuyé sur les régions. Du coup, au sortir de la guerre, cette notion de région, elle n'était pas vraiment dans l'air du temps, et on a préféré appuyer le développement de la France sur les départements. Mmh. On avait une France très départementalisée. Il a fallu attendre une réforme en 1955, une suivante en 1972, et puis surtout, donc, la réforme de 82-83 avec les lois de décentralisation, pour que la région, elle s'affirme dans le paysage. Alors, en 55, c'est tout simplement une organisation administrative de la part de l'État, c'est-à-dire que l'État se rend compte que avoir face à lui tous ses départements, c'est très compliqué pour gérer la période de croissance, en fait, qu'on appelle les 30 glorieuses. Donc c'est très compliqué d'avoir une gestion du territoire sur un espace aussi morcelé. Donc il a des préfets de département, mais il essaie l'État d'organiser de manière plus ergonomique, en fait, ses services administratifs, et donc il va créer des régions qu'on appelle les régions programmes, de manière à pouvoir relayer son action plus efficacement sur les territoires. Donc ce premier découpage, qui est un découpage qui a été fait par quelqu'un qui s'appelle Armand, je cherche son nom, en fait, je le trouverai tout à l'heure, mais donc c'est ce découpage, il est fait à partir de calques, c'est un jeune énarque à l'époque qui fait ça et qui raconte tout ce travail dans plusieurs ouvrages qu'il a écrits. Et donc il raconte comment il a découpé ces régions à partir des communications téléphoniques, des communications aussi par la route. Il n'y avait pas toute la cartographie et toute la statistique. Et du coup, il y a eu un tracé des régions qui a été fait, alors, un peu comme ça, à partir des départements, sans modifier les départements, avec des questions sur l'Aveyron, est-ce qu'on le met en Languedoc-Roussillon ou pas, comment on fait, bon. Et puis, le général de Gaulle a modifié ce tracé. Et finalement, en 1957, on a ces régions qui apparaissent, mais qui sont des cadres de vie qui ne sont absolument pas perçus par les habitants. C'est simplement une régionalisation de la part de l'État pour améliorer ses services. Donc, à 72, il y a quelques changements, mais surtout, la grande réforme, c'est bien sûr la réforme de la décentralisation. Alors, tout de suite, c'est vrai que cette région, elle apparaît, mais le département apparaît aussi. Et du coup, il y a un véritable problème qu'on va retrouver dans les budgets. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est de regarder finalement au-delà des compétences, c'est les budgets des départements et des régions. Et il y a des trucs très très étonnants. On peut s'y arrêter deux minutes en Midi-Pyrénées. Donc j'ai fait quelques recherches et je le fais souvent avec les étudiants. Oui, le nom de la personne tout à l'heure qui s'est occupée de redécouper les régions, c'est Serge Antoine. On n'en parle pas souvent, mais Serge Antoine, il s'est occupé ensuite de développement durable. Il a été dans plusieurs organismes et il a témoigné dans plusieurs revues De l'époque où il a dû tracer lui-même les régions chez lui avec des grands calques. Il traçait avec un feutre sur des calques qu'il mettait à sa fenêtre et il faisait des redécoupages comme ça, à l'emporte-pièce. Oui. Et c'est lui qui a proposé ce découpage des régions programmes en 1955, qui a été ensuite modifié par des hommes politiques. Mm-hmm. Et bon, ça montre bien le côté empirique de la chose. Oui. Hein, il fallait respecter les départements, mais c'était tout. Après, il faisait à peu près ce qu'il voulait. Bon. Je reviens donc au budget, c'est important parce que en 2015, quand on regarde le budget de la région Midi-Pyrénées, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Donc ça fait 1 milliard 200 millions d'euros. Bon, 200 millions d'euros, ce qui après la virgule, c'est important, ouais, vu les sommes. Hein. Mais quand on regarde le budget de la région Languedoc-Roussillon, c'est à peu près la même chose, 1 milliard 168 millions. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que le budget de Toulouse Métropole, c'est 1 milliard 400 000 euros. 400 millions d'euros.
Ah, oui.
C'est-à-dire que le budget de la métropole, il est supérieur à celui de la région.
Mm-hmm. Hein.
Et celui du conseil départemental de la Haute-Garonne, hein, c'est un département parmi tous les départements de Midi-Pyrénées, c'est 1 milliard 475 millions d'euros. C'est-à-dire en fait que le budget du conseil départemental de la Haute-Garonne, il est supérieur à celui de la région Midi-Pyrénées. Donc on voit en fait que déjà, il n'y a pas de chef de file, cette notion de chef de file qui ferait que, comme en Allemagne, les Länder, ils ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de compétences et beaucoup de budget.
Système pyramidal en quelque sorte.
C'est ça. Oui. Nous, on a en fait des entités qui ont des compétences différentes et qui ont des budgets parfois qui peuvent être très différents. C'est-à-dire qu'une entité de type conseil départemental a un budget parfois supérieur à celui de la région. Alors, vous allez me dire, mais quand on regarde les compétences, les départements, souvent, ils font de la gestion sociale, c'est-à-dire qu'ils ont des politiques sociales, le RSA, les politiques en faveur des handicapés, etc. Et du coup, ils ont des dépenses contraintes. Et c'est vrai, ça. C'est vrai que les départements ont des dépenses contraintes et du coup, les régions ont plus de marge de manœuvre. Elles ont plus de marge de manœuvre pour l'enseignement supérieur, pour l'aménagement du territoire, pour la recherche, pour l'innovation, pour les transports. Bon, mais en attendant, c'est quand même intéressant de voir que le conseil départemental de la Haute-Garonne a un budget supérieur à celui de la région Midi-Pyrénées. On n'est pas à l'époque où on disait l'armée, combien d'hommes, etc. Mais bon, c'est quand même assez frappant. Mmh. Le conseil départemental du Tarn, bien sûr, est en dehors de ces chiffres-là. Il est très très loin puisqu'il a 464 millions d'euros. Donc on voit que il n'y a pas de hiérarchie en termes financiers entre la région qui pourrait avoir un budget très très important et puis ensuite des métropoles ou des départements qui devraient être à l'échelon en dessous.
Mais est-ce que avec donc là les questions financières, vous avez déjà commencé à parler des compétences, est-ce que dans ce nouveau redécoupage là, il pourrait encore arriver qu'un conseil départemental ait un budget supérieur à celui de la future grande région?
Alors, c'est vrai que maintenant, vu que les régions vont fusionner, les régions vont ajouter leur budget. Donc, on va avoir des budgets encore plus importants. Mais un territoire identique. Hein, voilà, c'est ça. Donc, c'est en gros le même territoire. Quand on va prendre les 1 milliard 200 millions d'euros de Midi-Pyrénées ajoutés aux 1 milliard 168 millions d'euros de Languedoc-Roussillon, on va se retrouver avec un budget important, mais avec un territoire très, très grand aussi. Donc, on va avoir des départements qui ont du pouvoir. Non, ce qu'il faut voir, c'est simplement peut-être que la force de frappe va être importante en fonction aussi des dotations de l'État. C'est-à-dire, est-ce que l'État, au-delà de la fusion, va se dire, eh bien, il faut que je réaffirme l'entité régionale en attribuant des dotations supérieures parce que je vais confier des prérogatives plus importantes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Au contraire, vous avez vu certainement que les départements se plaignent, les collectivités locales en général, de la faiblesse des dotations de l'État, de la diminution des dotations de l'État. Donc on a là un jeu extrêmement compliqué entre, d'un côté, l'État qui souhaite la décentralisation parce que en 82-83 en particulier, ça arrangeait aussi l'État de répondre aux demandes des collectivités locales. Il y a eu un double mouvement en 82-83. La décentralisation, c'est à la fois des collectivités locales qui veulent du pouvoir, qui veulent prendre du pouvoir, parce que jusqu'à présent, c'est vrai que dans les années 70-80, ces collectivités locales, elles étaient ignorées, peu prises en compte. Il y avait aussi des mouvements autogestionnaires de développement territorial qui n'étaient pas vraiment pris en compte. On avait des expériences de pays en 75, etc., mais ce n'était pas vraiment dans le courant porteur à l'époque. C'était quand même l'État qui était très dominant sur le territoire national. Et puis progressivement, à partir de 82-83, il y a cette demande de décentralisation de la part des collectivités locales, de la part des citoyens aussi, des associatifs. Donc l'État répond à cette demande dans une période de gestion de gauche. Mais c'est aussi une période où l'État se trouve confronté à la crise du chômage. Il y a une montée du chômage importante. Et l'État se défausse auprès des collectivités locales d'un certain nombre de dossiers, qui étaient des dossiers sur lesquels il n'arrivait pas à être pertinent, comme les transports TER, par exemple, ou bien les collèges ou les lycées. Donc il y a des transferts qui s'opèrent pendant cette période, au début de la décentralisation, et ça arrange bien quelque part l'État, si vous voulez. Puisque l'État, d'un côté,
il se décharge d'une partie
de ses patates chaudes, en fait, qu'il n'arrivait pas vraiment à gérer. Il se dit, ben, puisque les collectivités locales veulent prendre du pouvoir, on leur transfère un certain nombre de compétences. Et on voit d'ailleurs que la région Midi-Pyrénées, elle a investi massivement, non seulement dans les trains, les TER, en fait, ce n'est pas que les trains, mais elle est allée aussi loin, puisqu'elle a voulu investir dans les rails. Or, l'infrastructure, c'était quand même RFF qui devait assurer le renouvellement de l'infrastructure. La région a une politique très volontariste pour faire des doublements de voies entre Gaillac et puis, par exemple, Toulouse. On a eu des cadencements beaucoup plus importants grâce au doublement des voies. Parce qu'à un moment donné, changer des wagons, mettre des nouveaux TER, ça ne permettait pas de doubler la fréquence, d'assurer, en fait, d'assurer des fréquences plus importantes. Il fallait aussi intervenir sur les voies. Or, l'échéancier des RFF ne correspondait pas à l'échéancier souhaité par la région. Donc, la région est allée au-delà de ses compétences. Mm-hmm. Elle le fait aussi dans l'enseignement supérieur.
Dans l'enseignement, oui.
Elle va au-delà de ses compétences. On ne lui demande pas de construire des locaux et de participer à l'enseignement supérieur. Elle le fait aussi.
Mm-hmm.
Donc, ça montre bien que les régions, elles sont offensives, elles prennent des compétences, elles ont des envies, en fait, d'aménager le territoire, mais ça dépend des dotations de l'État. Que va faire l'État derrière ça? Est-ce que l'État va avoir une politique plus fédérale de distribution de dotations supérieures pour encourager à la mise en œuvre de politiques d'aménagement du territoire ambitieuses? Ou bien est-ce que l'État va rester très centralisateur et va finalement déléguer peu de moyens financiers? Et en comptant sur l'argent de l'Europe, de Bruxelles, en comptant sur l'argent des contrats de plan, des dotations annuelles, voilà. Donc là, il y a une incertitude.
CFM, le MAG, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du pays cordais.
En lisant cette loi, donc la loi NOTRe, qui donne naissance à ces futures régions, en tout cas l'État a essayé, ou en tout cas les législateurs ont essayé de fixer clairement les compétences non seulement des régions, des départements, des communes, des intercommunalités. Ah, j'ai du mal avec celui-là. Sur les régions, donc les futures régions, il y a certaines compétences que le département avait, mais que le département va perdre. Quand je dis département, le conseil départemental. De quoi vont s'occuper les régions? De quel sujet? De quel thème?
Alors, les régions, elles vont s'occuper des thèmes sur lesquels elles interviennent aujourd'hui, de manière souvent massive. Hein. Elle s'occupe d'abord, quand on regarde le budget par exemple de Midi-Pyrénées, le premier poste c'est l'éducation, la formation professionnelle, l'apprentissage. Bon, ça s'est renforcé, hein, c'est confirmé. Ensuite, il y a tout ce qui concerne l'énergie, le développement durable et les transports. Donc là, c'est une deuxième compétence qui est aussi affirmée. Avec la question des transports scolaires. Je crois qu'à un moment donné, le département devait être dessaisi de la question des transports scolaires. Je crois et que finalement oui. Il va garder cette compétence-là. Mmh. Hein. Ensuite, il y a un autre poste qui est très important, c'est l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation. Et puis, il y a un dernier poste, c'est les aides au territoire, c'est-à-dire ce qui concerne la solidarité territoriale. En gros, la région, elle fait une politique de développement territorial pour aider ce qui est hors métropole.
Mm-hmm.
Plutôt les territoires ruraux, les services publics, les nouveaux services en fait, dans les territoires ruraux, une politique culturelle. Donc elle a aussi cet aspect-là.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai que la loi renforce le volet économie, hein, c'est-à-dire volet innovation, économie, aide aux entreprises. Il y avait des schémas de développement économique qui avaient été faits précédemment, mais ces schémas, souvent, ils n'étaient pas suivis d'une mise en œuvre effective. Donc là, on va voir ce qui se passe. Mais en tout cas, on peut avoir une lecture relativement simple des compétences de la région. Pour le département, c'est plus compliqué, puisque le département, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il est contraint par des politiques sociales qui lui prennent énormément de capacité de marge de manœuvre, aussi de capacité d'action, c'est-à-dire qu'il est contraint par des politiques publiques, il est un peu le relais des politiques de l'État. Et c'est vrai que vous avez des départements qui sont complètement asphyxiés aujourd'hui par la gestion de ces politiques de l'État. Je pense à des départements de la couronne parisienne qui font de la gestion sociale et qui n'ont pas vraiment de marge de manœuvre pour faire autre chose. Alors, nous, dans le département du Tarn, il y a le volet action sociale qui représente, je crois, plus de 50% du budget.
Le budget, ouais.
Ça veut dire qu'à côté de ça, il y a aussi les transports scolaires, à côté de ça, il y a aussi les collèges. Donc à la fin, le département avait une compétence d'aménagement du territoire, mais qu'est-ce qu'il peut faire avec si peu de moyens, puisqu'il y a quand même aussi les routes.
Bon.
Donc il peut y avoir des politiques culturelles, des politiques de dynamisation de projets locaux, mais c'est vrai qu'on voit quand même que c'est la région aujourd'hui, je pense, qui va se retrouver à la tête de ces compétences-là, d'aménagement du territoire en tout cas.
Donc les conseils départementaux qu'on a élus il y a à peine 6 mois, bon déjà eux-mêmes ne savaient pas pourquoi ils étaient élus, ou en tout cas quelles devraient être leurs futures compétences, ils vont essentiellement s'occuper, comme vous l'avez dit, de solidarité sociale, sanitaire, en pensant aux personnes âgées, solidarité territoriale aussi. Selon le rapport de Jacques Attali, économiste et conseiller de pas mal de présidents, les départements nuiraient entre autres points au développement économique. Est-ce que vous avez une position par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable?
Non, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je pense pas qu'il y ait de lien entre je sais pas, enfin, les départements, le développement économique, les régions, le développement économique. Bon, c'est vrai que avoir un chef de file clairement identifié, ça peut être quelque chose de plutôt positif, hein, de savoir qu'il y a des blocs de compétences avec un opérateur qui est un peu chef de file. Ça, c'est souhaité depuis très longtemps, qu'on ait une clarification des compétences. Bon. Ensuite, la question, c'est de savoir s'il y a une efficacité à mettre en œuvre des politiques d'aide aux entreprises aujourd'hui à partir d'une entité qui s'appelle la région. Bon, ça, franchement, je n'en sais rien. Je pense que le monde de l'économie, il est très compliqué. Je ne suis pas économiste, mais de ce que j'en vois sur les thèmes d'aménagement du territoire, il me semble que là où les régions ou les départements sont bons, c'est quand ils font tout ce qui concerne les aménités des territoires, c'est-à-dire quand ils ont des politiques culturelles, des politiques d'attractivité. Sur l'aide aux entreprises en particulier, ça ne me semble pas être le point le plus crucial. En revanche, sur le tissu économique, mais par d'autres biais, peut-être par l'innovation, le transfert de technologies, ce que fait aujourd'hui la région, en fait, là, il peut y avoir effectivement des opportunités. Mais associer les nouvelles compétences de la région à la dynamique économique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me paraît quand même très réducteur. Il faut peut-être entrer un peu plus dans le détail. Est-ce que le développement d'Airbus aujourd'hui, des laboratoires Pierre Fabre, d'entreprises comme Michelin ou des grands projets industriels sur les territoires sont vraiment liés à une dynamique régionale, d'un conseil régional ? Moi, j'en doute. Je pense que c'est des entreprises qui se développent elles-mêmes avec des partenariats à l'international. C'est très compliqué. Alors ensuite, qu'on fasse des pôles de compétitivité pour mettre des moyens financiers exceptionnels là-dessus, parce qu'on croit en fait qu'on va dynamiser des sites et donc des spécialisations. Bon, ça, c'est aussi discutable. L'idée, c'est quand même à chaque fois qu'on puisse consolider ce qui existe, mais peut-être par d'autres biais que simplement aider des entreprises.
Revenons une seconde sur le transfert de compétences en se projetant, parce que dans la loi NOTRe aussi, on parle des communes, ouais. Même si ce n'est pas encore le cas là en 2016, les communes céderont certains champs d'action aux intercos, qui d'ailleurs évoluent aussi. Donc on passe de 5 000 à 15 000 habitants. Est-ce que là, vous pouvez nous dire un mot par rapport aux compétences des communes ?
Oui, alors il y a déjà des transferts importants quand même de la commune vers l'intercommunalité. Bon, c'est vrai qu'on est toujours dans cette idée de « big is beautiful », le fait que la France est trop, il y a trop de territoires, un découpage territorial hérité de l'histoire, bon, c'est un débat classique en France. Est-ce qu'il faut adapter les territoires à des nouvelles logiques ou est-ce qu'il faut garder cette trame historique qui fait que la commune est l'échelon de base et puis ensuite on a... Alors, par le passé, on disait toujours que la France avait autant de communes que l'ensemble de tous les pays européens réunis. Bon, aujourd'hui, il faudrait voir, parce que l'Europe s'est élargie, on disait ça quand l'Europe était composée de 15 États, et puis aujourd'hui, on continue de dire la même chose. Bon, enfin, il faudrait vérifier. Mais est-ce que c'est un problème ? Je n'en sais rien. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, il y a un vrai souci, c'est le citoyen là-dedans. Je me demande d'abord si le citoyen, il arrive à décrypter tout ça. Et puis d'autre part, à force d'intégrer, c'est-à-dire à chaque fois d'avoir un échelon supérieur qui se renforce, on risque aussi d'éloigner le citoyen de la compréhension de ce qui se passe sur son territoire.
Hein, c'est peut-être le but, non ?
Alors, je ne sais pas si c'est le but, ça serait un peu pervers quand même comme histoire, mais il y a un danger quand même derrière ça, c'est-à-dire que ça devient presque illisible, on ne sait plus qui fait quoi, ou en tout cas, on sait que c'est quelqu'un qui fait ça, un opérateur, mais qui se trouve éloigné en fait, on n'est plus dans la proximité. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Que l'on veuille essayer d'homogénéiser ou du moins qu'on veuille essayer de donner un petit peu de cohérence à des actions qui s'éparpillaient, donc grâce au renforcement de l'intercommunalité, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'au moment où on a développé les pays, moi j'étais assez favorable à cette dynamique des pays. Je trouvais que c'était une entité, le pays, infradépartementale, à l'échelle de l'intercommunalité. Je pensais d'ailleurs que le pays et l'intercommunalité, ça allait être à peu près la même chose. Mais je trouvais que c'était intéressant sur ce maillage en fait en pays, et puis un maillage en agglomération, d'avoir une organisation du territoire de ce type-là. Parce que, quand même, le pays, c'était un territoire assez vaste qui permettait de mettre en œuvre un certain nombre de stratégies territoriales, d'avoir des services publics, d'avoir une réflexion à cette échelle qui était intéressante. C'était beaucoup plus opérationnel que l'intercommunalité, qui était à l'époque trop petite, ou que le département. Il y avait quelque chose là qui était pas mal. Mais le fait qu'on ait tout gardé, en fait, c'est-à-dire qu'on ait finalement c'est gardé ça. La commune, l'interco, voilà. Le pays, on n'y comprenait plus rien. Voilà. Donc là, effectivement, le citoyen s'est complètement noyé. Et aujourd'hui, cette idée de dire on va renforcer l'intercommunalité, c'est bien, mais à ce moment-là, quid des départements ? Est-ce qu'on les garde ? Est-ce qu'on renforce l'interco, mais on garde les départements ? Est-ce qu'on garde aussi les PETR ? Qu'est-ce qu'on va en faire, en fait ? Est-ce que ça va être une entité qui va se retrouver entre les deux ? Est-ce que cette notion de territoire de projet, on dit, mais attention, le PETR, c'est pas un nouveau découpage, c'est un territoire de projet. Bon, on nous l'avait fait déjà avec les pays, mais finalement, on n'a pas compris, quoi. Et c'est pour ça que c'est dommage, d'ailleurs, hein, que ces pays, qui dans la région Midi-Pyrénées, en plus, ils ont acquis une certaine dynamique, un savoir-faire, en fait, il y a quand même des choses derrière qui sont très, très intéressantes, ben, ils ont été noyés d'un côté par le département et de l'autre côté par l'interco. Ils ont disparu, finalement, on ne savait pas trop ce que c'était, que cet ectoplasme qui était territoire de projet, milieu, on ne l'identifiait pas, quoi. Voilà, au milieu de ça.
C'est voilà. CFM, le MAG, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du pays cordais.
C'est sûr que là maintenant, pour parler de collectivité, lorsqu'on parle de Midi-Pyrénées plus Languedoc-Roussillon, quand on est au fin fond du Tarn, ça va être très compliqué.
Alors, c'est vrai que le chef-lieu de la région, ça va être Toulouse. Donc, peut-être pour un Tarnais, Toulouse, c'est plus près que Montpellier. Effectivement, on a une très grande région, et surtout dans cette région, il va falloir se repérer, il va falloir repérer son conseiller régional qui va pouvoir servir de relais. Bon. On a quand même un paysage institutionnel, comme on l'a vu, qui n'a pas été complètement révolutionné. On garde les repères habituels, hein. On a la commune, l'interco, donc voilà. Et puis il y a des élus qui vont se faire le relais de tout ça, donc le paysage n'est pas complètement bouleversé. Donc ce qui change, à mon avis, c'est les politiques d'aménagement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on regarde les choses de plus haut et qu'on a une grande région, il va falloir faire attention aux politiques d'aménagement pour essayer de les adapter aux territoires. C'est-à-dire qu'il va falloir bien connaître les territoires.
Les rendre cohérentes aussi.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une compréhension du territoire régional. Cette lecture du territoire régional, elle est préalable à la mise en œuvre de politiques adaptées. Donc on a aujourd'hui une région Midi-Pyrénées avec une lecture du territoire par les opérateurs régionaux. Et puis il y a une lecture du territoire Languedoc-Roussillon. Là, il ne va pas falloir faire deux lectures, mais il va falloir en faire une seule. C'est-à-dire, il va falloir comprendre les dynamiques de ce territoire. Et ça, c'est pas du tout, ça n'a pas été fait précédemment à la loi. Hein. C'est-à-dire qu'on a fusionné des découpages, mais derrière, on ne sait rien aujourd'hui des dynamiques qu'il y a derrière. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Quoi. Hein, on sait qu'il y a des flux, on sait qu'il y a des circulations, mais on ne mesure pas encore comment fonctionne ce grand territoire. On ne sait pas trop comment il fonctionne.
Mais d'ailleurs, par rapport à la spécificité de bon nombre de territoires ruraux en France, auxquels beaucoup de gens tiennent, hein, ce redécoupage semble être pensé pour les grandes villes, les métropoles, les agglomérations, les intercos, les régions. Quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce que les territoires ruraux vont être délaissés à plus ou moins long terme?
Bon, alors, il y a un grand débat en France sur la lecture du territoire. Il y a beaucoup de travaux actuellement sur les dynamiques du territoire. Certains auteurs, par exemple Pierre Veltz ou bien Jacques Lévy, pensent que la France est urbaine en totalité. Et donc il n'y a plus d'espace rural, en tout cas qu'on a des gradients d'urbanité. C'est-à-dire finalement que le fait urbain s'est à peu près imposé partout. Bon, d'autres pensent au contraire qu'il y a encore des espaces ruraux. Et donc on a une différenciation territoriale très poussée, avec des espaces ruraux qui sont plus intégrés à la dynamique des villes, mais d'autres qui restent très en marge, en fait, de la dynamique des villes. Donc on peut faire des lectures du territoire français à plusieurs échelles. Je pense en tout cas qu'il y a effectivement des espaces ruraux en France, c'est-à-dire des espaces qui nécessitent une solidarité, et que la métropolisation répond en partie aux enjeux d'une région. Mais à côté de ça, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la grande région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, il y a d'autres enjeux que la métropolisation. Il y a l'enjeu du littoral, il y a l'enjeu de l'espace montagnard, l'espace pyrénéen qui est complètement différent de l'espace du Massif central. Sur l'espace Massif central, il y a les bordures, avec des bassins miniers qui sont en reconversion. Il y a aussi l'enjeu des villes moyennes. Donc on a une agriculture aussi qui est dynamique, mais une agriculture aussi qui est fragile. Donc on a toute une série d'enjeux qui ne sauraient se résumer à la métropolisation. Bon, la métropolisation, effectivement, aujourd'hui, ça focalise l'intérêt d'un certain nombre de chercheurs qui ne pensent que par la métropolisation. Mais il y a à côté de ça d'autres enjeux qui ne sont pas forcément liés à la métropolisation. Des enjeux qui appellent à des analyses assez fines pour comprendre les dynamiques de développement et comment peut-être on peut raccrocher effectivement la métropolisation, le développement d'un certain nombre de villes avec un arrière-pays. Donc vous voyez, ça ne se résume pas simplement à des métropoles qu'il faudrait renforcer pour développer le reste du territoire. Là, on reviendrait dans les années 60 avec la théorie des pôles de croissance, où finalement on pensait qu'en mettant de l'industrie lourde à certains endroits, ça allait irriguer l'espace alentour. Bon, aujourd'hui, on est quand même dans une vision qui est un peu différente, même si les pôles de compétitivité, c'est ça, quoi. C'est penser que mettre de l'argent et de la recherche, innovation sur certains pôles et secteurs d'activité, ça va rayonner sur tout l'espace. Bon, c'est quand même, il y a quand même des dynamiques beaucoup plus compliquées. Il y a des territoires qui fonctionnent de différentes manières. Et ce n'est pas simplement en regardant tout par le biais de la métropolisation qu'on va comprendre comment le territoire fonctionne.
Eh bien, nous allons reprendre rendez-vous avec vous pour une troisième et dernière émission où nous évoquerons l'impact de la régionalisation sur le quotidien des habitants dans ces futurs territoires. François Toulel, merci.
Merci.
CFM, le MAG, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du pays Gordais.
Dans moins de deux, retour sur les principaux faits d'actualité du jour dans le condensé d'informations de CFM, le MAG du Tarn, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Très bel après-midi à vous.